Radio Campus 88.3 et Agisson présente.
Une oreille va tomber.
Hein ? Pour que la musique reste un plaisir, préservons notre audition.
Radio Campus 88.3 FM. Le moulin à parole. Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées. Le moulin à parole.
La radio des écoles. Atelier d'initiation d'expression radiophonique dans les établissements scolaires d'Orléans. Sur Radio Campus 88.3, la radio des écoles.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette émission Radio Campus Orléans, nous, la première HLP du lycée Benjamin Franklin, qui signifie Humanité, Littérature et Philosophie, nous allons aborder et étudier plusieurs sujets, tous en lien avec la sociologie. D'abord, nous commencerons par le sujet de la colonisation inversée. Nous parlerons également du mois de l'égalité qui a eu lieu en février au lycée. Et nous nous interrogerons sur les différences de parcours entre les hommes et les femmes. Ensuite, nous poursuivrons en vous parlant de la place des femmes grecques dans la société. Et nous terminerons en vous parlant de l'influence de notre milieu social d'origine. Préparez vos snacks et posez-vous confortablement afin de rester jusqu'à la fin.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Alors bonjour Monsieur Creuset, merci d'avoir participé à cette émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour nos auditeurs ?
Bonjour, Christophe Creuset, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Benjamin Franklin. D'accord. Depuis pas mal d'années.
Ok. En tant que professeur d'histoire, quel regard vous portez sur la colonisation en elle-même ?
La colonisation, c'est un fait historique majeur qui a d'énormes conséquences à toutes les échelles et sur tous les territoires qui ont été concernés, à commencer par le nôtre, politiquement, culturellement, socialement. Les séquelles de la colonisation sont très très vivantes et très très visibles aujourd'hui.
D'accord.
Selon vous, qu'est-ce que la colonisation inversée ?
Colonisation inversée, je crois qu'il faut distinguer le contenant et le contenu. Colonisation inversée, le contenant, c'est une expression qui a été créée, fabriquée, de manière intentionnellement polémique, je pense. Le contenu, c'est la colonisation. L'expression laisse penser qu'il y a une colonisation à l'envers qui est en cours aujourd'hui et qui vise à répondre à la colonisation qui avait eu lieu auparavant. Voilà ce qu'on peut dire.
D'accord. Et est-ce que le terme de colonisation inversée est adapté à la venue des immigrés en France, selon vous ?
C'est une expression qui est polémique, qui crée de la controverse à des fins politiques, électorales. Du coup, c'est bien sûr une vision du fait majeur qu'est l'immigration. Mais je pense que c'est du domaine de du champ de bataille politique davantage que du domaine de la connaissance et de des sciences humaines.
D'accord. D'accord. Est-ce que, d'après vous, on peut parler d'une colonisation inversée en France ?
Là encore, l'expression habille un fait majeur, qui est l'immigration. Considérer l'immigration comme une colonisation, c'est là encore une posture électorale, une posture politique qui est à distinguer des faits objectifs.
D'accord. À la place du mot colonisation, par quel autre mot le remplaceriez-vous ?
Je crois que le mot colonisation est tellement parlant, tellement objectif, que je n'en vois pas de meilleur. Le mot est venu d'un fait historique qui, dès le départ, était appelé de cette façon-là. Aujourd'hui, avec le recul, on n'en a pas trouvé de meilleur.
D'accord. Merci pour vos réponses et votre éclairage. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu dans notre émission.
Merci de m'avoir invité.
Merci. Tout de suite, nous écoutons Irruption de Gaël Faye.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes.
à des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays, l'affiche et couleur sang. Emmanouchien, vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux armes miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans et limé par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous, on prend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui est fan de choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous par téléphone Madame Aurélie Damé, qui a accepté de répondre à nos questions sur son ouvrage « Les Grecs, destin de femmes en Grèce antique ». Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs ainsi que votre ouvrage ?
Bonjour et puis merci pour votre invitation. Donc je suis enseignante chercheuse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je suis spécialiste de l'histoire de la Grèce archaïque et classique, donc entre les 8e et les 4e siècles avant Jésus-Christ. Je travaille surtout sur la famille et la parenté grecque, notamment les violences familiales, l'eugénisme ou encore la solitude. J'ai donc écrit un ouvrage qui présente 18 destins, 18 portraits de femmes grecques de l'époque donc archaïque à la fin de l'époque hellénistique, hein, au tournant du 1er siècle après Jésus-Christ. Et on y croise donc dans cet ouvrage des filles, des femmes du quotidien qui travaillent, qui se marient, qui participent à des rituels religieux, mais aussi des femmes plus exceptionnelles, des philosophes, des historiennes, des femmes médecins, des magistrates, des plongeuses et même des femmes à barbe. Voilà.
Merci. Nous avons pu, en tant qu'élèves, lire votre ouvrage dans le cadre du prix lycéen du livre d'histoire avec notre groupe de préparation à Sciences Po Paris. Et on s'est posé la question de pourquoi vous intéressez spécifiquement à cette période, à ce sujet, et d'où vous est venue cette idée.
Alors en fait, je suis spécialiste de la Grèce ancienne depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai fait ma thèse de doctorat donc sur les conflits familiaux en Grèce ancienne. Et j'ai toujours croisé l'histoire des femmes et l'histoire du genre dans mes études et dans mes travaux. Et en fait, l'ouvrage, c'est une commande par une maison d'édition à Talendier. Et en fait, j'ai eu carte blanche pour faire un livre. Ils m'ont dit, vous faites ce que vous voulez. Il faut que ce soit un livre accessible sur les femmes grecques. Donc l'idée pour moi à ce moment-là, ça a été de proposer une synthèse accessible, mais une synthèse vraiment érudite quand même sur ce que l'on sait aujourd'hui de l'implication du rôle des femmes grecques dans la cité à cette époque-là, au niveau économique, judiciaire, religieux, culturel et parfois aussi politique. Mais je voulais aussi rappeler tous les obstacles que les femmes grecques rencontrent dans ces sociétés qui sont très patriarcales et qui ont un fond culturel qui est parfois quand même très misogyne.
Et du coup, par la suite, comment avez-vous réussi à trouver ces informations ? Cette époque est très éloignée de nous quand même, et cela n'a pas dû être facile pour trouver vos sources.
Alors en fait, quand on est antiquisant, donc ce qui est mon cas, c'est vrai qu'on a moins de sources que pour les historiens des époques modernes ou contemporaines. Mais les sources, en fait, sont très nombreuses pour étudier les femmes grecques, hein, si on regarde bien. Il y a le théâtre, il y a les historiens, il y a les traités philosophiques, il y a des traités mythicaux. Ça, c'est ce qu'on appelle les sources textuelles. On a aussi beaucoup d'archéologie, les objets du quotidien, les vases qui vont présenter beaucoup de scènes féminines. Il y a aussi ce qu'on appelle l'épigraphie, les inscriptions, où on a la trace de femmes en train d'agir, de déposer des objets, par exemple, dans les sanctuaires, de remercier les dieux. Et puis, il y a aussi les sources qu'on appelle papyrologiques de l'époque hellénistique, où là, on a plein de lettres privées, des documents juridiques, où on voit beaucoup de femmes. Donc, en fait, on a des sources sur les femmes, même si, bien sûr, elles sont beaucoup moins nombreuses que pour faire l'histoire des hommes.
Et donc, après toutes ces découvertes, est-ce que vous auriez aimé vivre en tant que femme à cette époque ?
Alors, franchement, pas vraiment. Mais j'aurais pas aimé être esclave non plus. En fait, si on veut dire les choses simplement, pour avoir une vie agréable à cette époque-là, il fallait être un homme citoyen et d'un milieu aisé. Pour les femmes, même libres et de famille citoyenne, il y avait beaucoup de contraintes, hein, beaucoup de surveillance, notamment des corps, peu de liberté, peu de droits politiques et d'accès aux institutions. Et voilà, pour faire simple, on attendait avant tout d'une femme qu'elle fasse des enfants et qu'elle tisse des vêtements pour toute la famille. L'égalité homme-femme, elle était inexistante chez les Grecs, sauf dans certaines réflexions philosophiques. Après, c'est vrai qu'en ayant étudié plusieurs destins de femmes un peu plus exceptionnelles, j'aurais apprécié d'être Kiniska de Sparte, de famille royale et propriétaire de chevaux. J'aurais aimé être Hipparchia de Maronée, la femme philosophe cynique, qui a envoyé balader toutes les injonctions faites aux femmes de l'époque. Elle portait pas de talons, pas de maquillage, elle allait philosopher avec son mari dans les banquets, qui était un endroit qui était normalement interdit aux épouses. Ou alors Idna, que j'aime beaucoup aussi, qui est une jeune plongeuse qui a saboté les navires perses pendant les guerres médiques en 480.
On remarque donc des destins très différents. Et en lisant votre ouvrage, il est évident que nous avons vu des similitudes qui sont flagrantes sur certains points entre la Grèce antique et le monde de nos jours. Mais alors, diriez-vous que c'est les Grecs qui étaient une civilisation très moderne ou notre société qui n'a pas évolué ?
Alors, de quelles similitudes, en fait, vous parlez exactement pour répondre à votre question ?
Notamment sur les destins de femmes, la condition des femmes qui étaient destinées à être mères, on a remarqué des points communs ?
Alors oui, tout à fait, ça n'a pas... Alors ça a quand même évolué. Les femmes, Dieu merci, aujourd'hui, peuvent faire autre chose que d'être mères, même si c'est bien sûr une dimension aussi importante pour certaines, de leurs envies et de leur quotidien. Après, est-ce que ça fait des Grecs une civilisation moderne, l'injonction à la maternité, je ne suis pas sûre. Mais sur d'autres plans, il est vrai que, notamment politique, sur l'invention de la démocratie, c'est vrai qu'il y a toujours une fascination pour le monde grec par rapport à notre modèle actuel. Mais pour le coup, la place des femmes, en fait, y est plutôt problématique. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas que les Grecs étaient une civilisation moderne sur la façon d'intégrer les femmes à leur modèle, notamment politique et institutionnel. Et aujourd'hui, la société a quand même davantage évolué, même si il y a encore des efforts à faire.
Par la suite, en écrivant ce livre, votre but était seulement d'informer le lecteur ou il y avait un autre but derrière ?
Alors, l'ouvrage, en fait, participe, on peut dire, d'un mouvement qui est plus général en histoire grecque, qui cherche, en fait, à rendre davantage visibles les femmes de l'Antiquité. Donc l'idée, c'était aussi de faire sortir de l'ombre et des silences de l'histoire ces femmes, sans occulter les structures patriarcales, qui sont aussi très importantes. Donc c'est vrai qu'au-delà de l'aspect informatif du livre, il est vrai qu'il y a, on peut dire, une démarche qui est plus militante et tout simplement plus féministe.
Eh bien, merci vraiment pour le temps que vous avez consacré et accordé à nous, votre disponibilité et bonne chance pour le prix du livre d'histoire.
Je vous remercie.
Avant de passer à la suite de notre émission, nous écoutons tout de suite Amy Winehouse, Back to Black.
Des écoles sur Radio Campus Orléans.
Pour nous parler d'inégalités entre les sexes et des difficultés qui peuvent encore exister aujourd'hui à être une jeune femme dans un univers très masculin, nous avons contacté une ancienne élève du lycée Benjamin Franklin, Mathilde Pruvot. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Bonjour. Bah, merci de m'avoir proposé de participer déjà à votre émission. Donc oui, je peux revenir sur mon parcours. Moi, j'ai fait ma seconde et ma première au lycée Benjamin Franklin. Et puis, j'ai fait ma terminale à Janzé. Suite à ça, j'ai intégré une classe préparatoire dans un lycée militaire, donc un lycée de la Défense, où j'y ai effectué 2 ans. Et j'étais en filière littéraire pour préparer les concours des officiers des armées, et plus particulièrement Saint-Cyr. Donc, j'ai passé ces concours et suite à ça, j'ai fait 2 années de double licence histoire-géographie à l'université de La Rochelle. Et maintenant, depuis août, je suis en master 1 à l'université de Nantes, où je suis en histoire. Et voilà, je reviendrai un peu plus en détail sur ce que je fais actuellement tout à l'heure.
D'accord, merci. En passant par un lycée militaire, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ?
En fait, la formation, elle est exigeante en elle-même pour tout le monde, que ce soit physiquement ou intellectuellement. C'est une formation qui est très lourde. Et c'est vrai que lorsqu'on est une femme dans un milieu masculin, c'est parfois plus difficile de devoir faire ses preuves. Et tout simplement aussi de faire accepter notre présence. C'est vrai que le regard, il est porté sur nous, sur notre comportement, sur notre tenue aussi, et sur nos résultats, beaucoup plus que sur un homme. Dans les rangs, c'est vrai qu'il y a assez peu de femmes, et ça a tendance à attirer l'attention, par exemple en cérémonie, ou même de manière générale, c'est vrai qu'on nous voit particulièrement. Malgré cela, je pense que c'est vraiment important de poursuivre notre souhait de faire partie de ces formations, même si elles sont masculines, quelles qu'elles soient, et de s'entourer aussi de bonnes personnes qui eux croient en notre présence là-bas et peuvent nous apporter tout le soutien dont on a besoin pour réaliser cette formation. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là et aller voir plus loin, et puis dépasser ça malgré le fait que c'est très lourd évidemment à porter.
Parlez-nous de votre parcours de gendarme volontaire. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette profession ?
En fait, après mes 2 années de prépa, je suis donc arrivée à la fac, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'avais vraiment envie déjà d'être utile aux autres et de partager l'esprit de camaraderie que j'avais eu pendant 2 ans. Je voulais poursuivre un petit peu cette expérience militaire, tout en me rendant utile et puis aussi en découvrant les missions de la gendarmerie. Et donc, je me suis inscrite sur la plateforme Minotaur, qui est la plateforme de recrutement et ensuite de gestion des réservistes. Et donc, j'ai entamé mon parcours de recrutement pour la réserve. Donc, après quelques examens médicaux et puis des formations aussi, j'ai pu réaliser des missions que je fais en parallèle de mes études. Donc, par exemple, le week-end ou pendant les vacances, quand j'ai aussi des jours où je n'ai pas cours, par exemple. Et donc, je fais ça depuis maintenant presque 2 ans. La réserve, elle peut proposer tout type de mission, en fait. Ça peut convenir vraiment à énormément de monde, qu'on aime être plus sur le terrain ou qu'on veuille plus participer à la gestion administrative. Des fois aussi, il y a des missions qui sont proposées pour encadrer des formations aussi de réservistes. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la force de cet emploi un peu particulier-là, c'est que tout le monde peut y trouver son compte. Particulièrement, moi, j'étais intéressée de travailler avec les enfants. Et quand j'en ai parlé avec le bureau réserve, j'ai pu avoir accès à des missions et puis à des stages auprès d'enfants. J'ai pu réaliser de la sensibilisation en classe, du CE1 jusqu'à la terminale, que ce soit sur les drogues, les dangers d'Internet, les agressions sexuelles aussi. Et j'ai aussi pu travailler auprès de jeunes et participer à leurs auditions, des jeunes qui ont été victimes de violences, quelles qu'elles soient. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté et je pense que je n'y aurais pas eu accès si j'étais passée, on va dire, par la voie classique. La réserve, elle apporte aussi tout ce lot-là d'expériences un peu particulières et c'est ça qui est vraiment intéressant.
Aujourd'hui, vous poursuivez vos études. Pouvez-vous nous parler de votre sujet de recherche ?
Oui, bien sûr. Alors du coup, actuellement, je suis en master d'histoire, parcours histoire internationale, conflits et géopolitique à l'université de Nantes. Et dans le cadre de cette formation, je dois réaliser un mémoire de recherche, puisque c'est une formation qui est orientée recherche. Donc j'ai 2 ans. Pour réaliser un mémoire entre 150 et 200 pages à peu près sur cette thématique. Et je peux choisir tout ce que je veux à partir du moment où mon sujet se rattache à cette thématique. Et moi, j'ai décidé de m'intéresser à l'histoire du terrorisme, ce qui est vraiment passionnant et très intéressant. Et plus précisément, je travaille sur l'histoire des femmes djihadistes et de leur représentation dans la presse française, dans l'histoire quasi immédiate, très, très contemporaine, puisque c'est à peu près depuis 2012 jusqu'à nos jours. Donc c'est vraiment l'actualité imminente. Et pour réaliser mon travail, je suis accompagnée par une professeure d'histoire contemporaine qui est spécialisée sur ce sujet. Et elle m'aiguille dans mon travail, elle répond à mes questions aussi, parce que ce travail de recherche, c'est évidemment pas inné. Quand on sort de licence, on n'a pas été habitué à faire ce travail-là. Et on est encore en master très accompagné, même si on reste aussi très autonome. Mais ces facultés-là, on y arrive parce que petit à petit, on nous apprend à arriver à ce niveau-là d'autonomie. Évidemment, ce n'est pas encore on sort du bac qu'on arrive à faire des travaux comme ça. Et puis, encore actuellement, j'apprends à mener mon travail. Des fois, je fais des erreurs. Des fois, je suis perdue aussi. Et donc, c'est ce que j'aime aussi dans ma formation actuelle. Je prends vraiment un grand plaisir à faire ce travail de recherche parce que c'est captivant, quoi.
Quelle profession envisagez-vous d'exercer une fois que vous aurez terminé vos études ?
Après mes études, en fait, j'ai plusieurs choix qui peuvent s'offrir à moi. Le premier serait de pouvoir candidater au concours d'officiers de gendarmerie, des armées aussi, puisqu'ils sont accessibles avec un master au minimum. Je peux aussi continuer dans le domaine de la recherche et pourquoi pas poursuivre le sujet que j'ai entamé en master. Donc ça, c'est deux options qui restent encore bien dans ma tête. J'avoue qu'actuellement, je suis toujours en hésitation, en réflexion. Bah, j'ai encore 1 an et demi pour prendre ma décision et voir ce que je peux faire après. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais vraiment conserver mon emploi de réserve. Si je fais autre chose à côté, un emploi civil, je veux dire, parce que je m'épanouis vraiment dans cet environnement-là, dans les rencontres que j'y fais, aussi dans les missions très différentes que je peux faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Ça me donne aussi un équilibre et un, on va dire, un, une ligne directrice vis-à-vis de mes recherches. Ça me permet de rencontrer du monde et de parler aussi avec des vrais gendarmes dont c'est le travail tous les jours et qui me partagent leur expérience de vie. Ça, c'est très, très enrichissant.
Nous sommes ravis d'avoir pu recueillir votre témoignage d'ancien élève de Benjam. Quel souvenir gardez-vous de votre passage dans notre établissement ?
Je garde des souvenirs de ces deux années, je pense, de beaucoup de lycéens. Donc des souvenirs avec mes amis, évidemment. Je pense que je garde mes premiers souvenirs de révision, on va dire, hein, parce que j'y ai passé mon bac de français. Donc j'ai le souvenir de mes premiers stress d'examen et de ces moments un petit peu particuliers que j'ai partagé avec mes amis, les révisions où on était 4-5 sur le lit à se poser des questions. Ça reste des très bons souvenirs, même si sur le moment on est peut-être plus stressé par les examens qu'autre chose. Et puis, je garde aussi de très bons souvenirs de mes cours de français. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la littérature en première particulièrement. Et ça s'est renforcé après en prépa, de découvrir la littérature, etc. C'est là où je me suis attachée à l'aspect plus littéraire des études. Et c'est les principaux souvenirs que je garde de cette période au lycée.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et bon courage pour la suite de vos travaux de recherche.
Merci beaucoup.
Tout de suite, une pause musicale avant de retrouver notre dernière partie. Nous écoutons Like a Ball de Sarah.
Trash, get into cash like I'm fast, like I'm girl. You wanna act like it, bitch. Security codes on everything, on my bracelet, phone don't ever ring. And another one he don't know about. Wish we could switch up the role. I could be that. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me, like where you be? As I'm out, 4 in the morning, on a corner rolling, doing my own thing. That car when you with him like I'm keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the role. And I could be that. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be? As I'm out, 4 in the morning, on the corner rolling, doing my own thing. Had a thing on the side. Always gone, hit the sun, beat me home. Told you I was with my crew when I knew it wasn't true. If I act like you, won't come out off in your shoes. I'm messing with your head again, dose of your own medicine. What if I had a thing on the side? Yeah.
What you gonna play? Never call. What you gonna play? La la. You ain't got that. No.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Alors avec Monsieur Gérardo, notre professeur de philosophie en première HLP, nous avons parlé de l'influence de notre milieu social d'origine sur notre langage et l'image que nous donnons aux autres. Lina et Kelly, vous avez voulu prolonger cette réflexion.
Lina et Kelly, vous avez effectué un sondage auprès de différentes personnes du lycée pour prolonger notre réflexion sur les conséquences des différences des milieux sociaux sur notre vie quotidienne. Alors, pouvez-vous nous en parler ?
Bonjour tout le monde, en effet merveille, nous avons effectué un sondage à l'échelle de notre établissement scolaire en interviewant des individus provenant de différents milieux sociaux. Je tiens à préciser qu'avant d'interviewer les 25 participants, nous leur avons d'abord demandé dans quel milieu social pensaient-ils appartenir. Et la majorité d'entre eux, donc 64%, considèrent appartenir à un milieu modeste. Nous avons eu seulement 36% de participants qui considèrent appartenir à un milieu aisé. Afin de réaliser un sondage concret, plusieurs questions ont été posées et les quatre plus importantes ont été gardées. Combien de fois partez-vous en vacances par an ? Dans un restaurant, vous devez payer 60 euros pour vous-même, qu'en pensez-vous ? Que ce soit en ligne ou dans la vie réelle, dépensez-vous souvent ? Si oui, combien par mois ? Pratiquez-vous une ou des activités extrascolaires ? Si oui, lesquelles ? Je passe la parole à Lina qui nous rapporte les résultats de ce sondage, suivi d'une profonde analyse sur les conséquences engendrées par ceci.
Bonjour. Alors après avoir reçu tous les résultats, nous avons ensuite transformé en pourcentage afin d'avoir une vision plus claire des différences entre ces deux milieux sociaux. Commençons par la question des vacances. Alors que 77% des personnes issues de milieux aisés ont la chance de voyager plus de 4 fois par an, on observe que seulement 68% de ceux issus de milieux modestes se contentent à 1 à 2 voyages. Cette différence peut mener à des inégalités sur les plans personnels, sociaux et éducatifs. En effet, ceux qui ont la possibilité de voyager se voient bénéficier d'une meilleure santé, qu'elle soit mentale ou physique, ainsi qu'à une plus grande ouverture d'esprit grâce à l'expérience des nouvelles cultures et à la découverte de nouveaux environnements. On remarque aussi que les personnes qui ont moins d'opportunités de voyager peuvent se sentir exclues ou différentes de celles qui y bénéficient. Enfin, sur le plan éducatif, on voit que celles qui ont la chance de voyager ont des connaissances culturelles plus riches et ainsi une vision du monde plus élargie.
Je vois que nous avons des inégalités assez frappantes sur ce sujet, mais qu'en est-il dans la gastronomie ?
Justement, nous y voilà. En parlant de gastronomie, les différences sont frappantes. Tandis que 55% des individus aisés considèrent 60 euros pour un repas seul comme abordable, pour 94% des modestes, c'est tout simplement exorbitant. Ces chiffres reflètent non seulement des normes et attentes différentes entre ces deux milieux, en matière de dépenses, mais aussi, pareil que pour la question précédente, des inégalités sur différents plans. L'un des plus intéressants et plus utiles pour notre chronique est celui de la culture. Ceux qui considèrent un repas à 60 euros abordable ont souvent plus facilement accès à une alimentation de qualité et variée, à l'inverse de ceux qui n'en ont pas.
Le milieu social joue alors aussi un rôle important sur l'accès à un service. Nous avons probablement le même problème avec l'achat des vêtements.
En effet, le shopping, bien qu'il puisse paraître anodin, est également un domaine où les disparités sont évidentes. Sur les 9 personnes se considérant comme venant d'un milieu aisé, 67% d'entre elles dépensent plus de 100 euros pour leurs biens personnels par mois. Une pratique que seulement 25% des modestes s'autorisent. Ainsi, pour les individus provenant de milieux aisés, la dépense de plus de 100 euros par mois dans le shopping peut être considérée comme normale, voire même un mode de vie. Pour la plupart des personnes que nous avons interrogées qui se disent provenir de ce milieu, le shopping est perçu comme un loisir ou une manière de s'exprimer. En revanche, pour les autres, le shopping est considéré comme une dépense devant se limiter au strict nécessaire. De plus, certaines personnes, surtout provenant de milieux modestes, trouvent que l'achat excessif de produits n'est d'aucune utilité et contribue à la surconsommation et la pollution. Durant le long de notre enquête, on a remarqué que les individus qui étaient le plus attachés aux causes environnementales et animales provenaient en majeure partie des milieux modestes. De ce fait, nous avons conclu que la perception de la nature et de ce qui nous entoure ainsi que sa préservation est plus importante pour les personnes issues de ce milieu.
Le pouvoir d'achat diffère donc selon le milieu social et des répercussions importantes sont observées à travers les achats excessifs par les personnes issues d'un milieu aisé. Je ne doute pas que les activités extrascolaires diffèrent également selon le milieu social.
Bien évidemment. En matière d'activités extrascolaires, la distinction est flagrante. 100% des individus issus de milieux aisés en pratiquent au moins une et même 55% d'entre eux en exercent plus de trois. Du côté de ceux provenant de milieux moins élevés, seulement 44% d'entre eux en ont accès à une seule activité extrascolaire. Du côté des personnes issues de milieux aisés, ces activités, au même titre que le reste des points abordés selon eux, sont souvent considérées comme une norme. Elles peuvent non seulement enrichir leur éducation et leurs compétences, mais aussi renforcer leur sociabilité et leur opportunité de réussite scolaire et professionnelle. Ce sont deux points qu'on a pu observer et avec lesquels nous avons agréé en observant les différentes personnes interrogées.
Merci Lina pour toutes ces informations très utiles. Nous pouvons voir à travers des sujets variés le fait que les différences provoquent des inégalités qui ont des conséquences à travers notre vision ainsi que la perception du monde. Cela engendre des normes et des valeurs différentes et assez contradictoires, dépendant fortement de notre milieu social.
Merci pour ces réflexions. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté l'émission des premières HLP. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et restez à l'écoute et passez une excellente journée.
La radio des écoles. Atelier d'initiation d'expression radiophonique dans les établissements scolaires d'Orléans. Sur Radio Campus 88.3, la radio des écoles.
see your eyelids. I've got your face, a sunshine ripple on my skin. Slide down to my nose to make me believe in. I feel your smell coming too close. I look the other way, 'cause this feeling is nothing that I want to share. A syndrome I try to get rid of. Don't wanna feel incomplete no more. The arrow touched me, thought my skin was cold. I tried to restrain the strong waves ahead of us. Our senses have become the illusions, mutilating our